VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Fusillade ce matin sur un terrain de sport fréquenté par des élus républicains au Congrès. L'incident a eu lieu à Alexandrie, en Virginie, dans la banlieue de la capitale Washington. Un tireur a ouvert le feu sur le terrain de sport et il y a eu 5 blessés, des policiers et des civils, notamment le député Steve Scalise, un des leaders de la majorité républicaine à la Chambre des représentants du Congrès. Les victimes ont été transportées dans des hôpitaux. La police d'Alexandrie indique avoir arrêté le suspect ayant tiré sur le terrain de sport. Actualité américaine toujours, le ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, a démenti mardi avoir eu une réunion non révélée avec Sergei Kislyak, l'ambassadeur de la Russie à Washington. Il n'y a pas eu non plus de communication indue avec des officiels étrangers, selon le ministre. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Jeff Sessions a qualifié de mensonge honteux et détestable toute idée selon laquelle il y aurait eu collusion entre lui et des responsables russes pendant la présidentielle de 2016. Lors d'échanges plutôt vifs avec des membres de la commission du renseignement qui enquête sur l'ingérence russe dans cette élection, l'ancien conseiller de la campagne de Donald Trump a dit avoir eu deux rencontres avec l'ambassadeur Kislyak en 2016. Mais il dément qu'il ait eu une troisième réunion avec lui dans un hôtel de Washington en avril dernier à l'occasion d'une réunion politique. Je l'ai peut-être croisé dans une réception, mais je ne me souviens pas, a-t-il dit. Le ministre de la Justice a cependant refusé de répondre aux questions sur ses conversations sur l'affaire russe avec le président Trump, suscitant des accusations d'obstructionnisme de la part des membres démocrates de la commission. Pour étayer les raisons de son refus, M. Sessions a cité une politique de longue date de son ministère, se réfugiant derrière la prérogative sur la confidentialité de ses discussions avec le président.
Afrique maintenant, crise migratoire. Des migrants ouest-africains, parmi lesquels des femmes, ont été abandonnés hier par leurs passeurs en plein désert dans le nord du Niger. Heureusement, ils ont été secourus par l'armée nigérienne. Le témoignage d'Ibrahim Monzo Diallo, journaliste à Aïr Info à Agadez.
Ces gens, qui sont au nombre de 80, ont été abandonnés par leurs passeurs. Et avant d'être abandonnés, nous avons appris qu'ils ont été d'abord violentés, c'est-à-dire torturés par ces passeurs, sûrement sous la menace des armes pour pouvoir libérer les véhicules qui les contenaient. Il y a de plus en plus de passeurs qui abandonnent les migrants. Et chose curieuse, ces passeurs ne sont pas du tout retrouvés. Ils prennent la poudre d'un scampette, ils maîtrisent le désert, ils vont là où ils veulent.
Ibrahim Monzo Diallo, journaliste à Aïr Info, à Agadez, au Niger. En Côte d'Ivoire, des voix s'élèvent de plus en plus pour demander la libération de tous les prisonniers politiques, essentiellement des personnes arrêtées à la suite de la crise post-électorale de 2010-2011. Une association de femmes est à la pointe de ce combat. Écoutons l'appel de Simone Datt, présidente du collectif des femmes des détenues de la crise post-électorale.
Je suis dans la souffrance. Mon mari est détenu de manière injuste dans une prison et on vient me parler de réconciliation. On vit dans l'angoisse, dans la tristesse totale, dans la désolation. Parce que tu ne sais même pas si ton époux vit, ça c'est un d'abord. Après, quand tu sais où ton époux est, quand tu vas trouver ton époux, dans la condition où tu vois ton époux, vraiment, c'est trop grave. Nous sommes obligés de mener des démarches pendant plusieurs semaines pour voir nos époux. Avec les enfants aussi qui demandent maman et papa, ça c'est compliqué, c'est vraiment triste.
Simone Datt, présidente du collectif des femmes des détenues de la crise post-électorale, le COFED. À la CPI, la Cour pénale internationale de la haine, déposition de l'ancien chef de guerre de la RDC, Bosco Ntaganda, devant le tribunal ce mercredi sur son rôle alors qu'il était l'un des commandants des FPLC, les Forces Patriotiques pour la Libération du Congo, un mouvement rebelle. À l'ouverture de son procès, en septembre 2015, l'ex-seigneur de la guerre avait plaidé non coupable des 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité qui lui sont reprochés, notamment meurtre, pillage, l'attaque contre des civils, viol et esclavage sexuel commis par ses troupes en 2002-2003 en Ituri, dans le nord-est de la RDC. D'après la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, Bosco Ntaganda était un des commandants les plus actifs lors des crimes ethniques qui ont entraîné la mort de 60 000 personnes. RCA, arrestation à Bangui de deux proches d'un officier de la RDC insurgé contre le régime au pouvoir à Kinshasa. La FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, craint que leur extradition ne les expose à une exécution extrajudiciaire, Edith Sango.
Les autorités de Bangui confirment avoir mis la main vendredi sur deux collaborateurs de John Tshibangu, colonel déserteur congolais qui menace de renverser les régimes de Kinshasa. Selon le ministre centrafricain de la Sécurité et de l'Intérieur, Jean-Serge Bokassa, les deux hommes sont impliqués dans des activités de déstabilisation de la Centrafrique et de la RDC. Sans vouloir en dire plus, M. Bokassa a précisé au téléphone à VOA Afrique que d'autres arrestations suivront parmi les acolytes des deux hommes. Un procès sera, selon lui, ouvert très prochainement. John Tshibangu, leader du mouvement politico-militaire Front du peuple congolais pour le changement et la démocratie, dit craindre que ces hommes ne soient sommairement exécutés si jamais ils étaient extradés à Kinshasa. Le colonel Tshibangu avait rejeté la victoire de Joseph Kabila à la présidentielle de 2011 et exigé la vérité des urnes depuis le Kasaï où il s'était constitué un bastion avant d'aller en exil à l'étranger.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Cameroun, l'évêque catholique camerounais Jean-Marie Benoît Bala, dont le corps a été repêché le 2 juin dans un fleuve du centre du pays, a été brutalement assassiné. C'est ce qu'ont affirmé les évêques camerounais dans une déclaration. L'épiscopat camerounais exprime l'espoir que les coupables seront nommément identifiés et livrés à la justice. Dans leur déclaration, les prélats soulignent que leur conclusion s'appuie sur les premiers constats sans donner plus de précision. Et puis au retour sur la crise entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, Riyad a rompu ses relations avec Doha, que le gouvernement saoudien accuse de soutenir des terroristes tels que les frères musulmans, le groupe État islamique et Al-Qaïda. Maintenant, l'Afrique prend peu à peu position. Le Niger, le Sénégal et le Tchad ont rappelé leur ambassadeur à Doha et la Mauritanie a rompu ses relations avec le Qatar. Comment expliquer ces réactions en Afrique? Morgane Guiriec a joint Babacar Sam, ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte et professeur d'arabe à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Des pays africains qui veulent exprimer leur solidarité avec l'Arabie Saoudite, compte tenu du dernier sommet que des présidents des États-Unis qu'il a tenu donc à Riyad, où beaucoup de chefs d'État africains et arabes étaient invités, avait beaucoup influé sur la position de ces États. Mais je pense que dans l'ensemble, ces pays-là entretenaient aussi des relations correctes avec le Qatar et non pas des différents particulier qui pourrait expliquer donc leur position de défiance.
Quel intérêt ont-ils à soutenir l'Arabie Saoudite?
Tous ces pays-là, c'est des pays de forte population musulmane. Et l'Arabie Saoudite, pour les pays musulmans, c'est un symbole que aussi l'Arabie Saoudite est un pays qui a beaucoup aidé financièrement dans les investissements de développement. Sur le plan géostratégique, les relations particulières entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, ces pays-là également ont voulu renouveler leur amitié avec les États-Unis.
Le président guinéen Alpha Condé, qui est président de l'Union africaine, appelle au dialogue et offre sa médiation afin de trouver une solution pacifique.
C'est une manière de nuancer un peu donc les positions exprimées par les pays qui ont rompu ou qui ont appelé leur ambassadeur. Concernant les déclarations du président Macky Sall, eh bien, le président a appelé à la désescalade. C'est véritablement une manifestation de solidarité avec l'Arabie Saoudite, mais il ne faut pas l'interpréter comme une hostilité à l'égard du Qatar, parce que la plupart de ces pays ont des relations économiques, comme le Sénégal, par exemple, avec le Qatar.
Alors, l'Union africaine qui propose sa médiation, est-ce que c'est juste une déclaration de bonne intention ou peut-elle vraiment influencer cette crise?
Oui, moi je pense qu'effectivement ça peut influencer dans la mesure où les intérêts de l'Arabie Saoudite en Afrique sont immenses. Si l'Arabie Saoudite veut continuer à garder sa suprématie sur le continent africain, il devrait écouter le continent africain.
Babacar Sam, ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte et professeur d'arabe à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au Sénégal. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.